Bonjour la passagiste, ça tombe super bien que le répondeur grogne parce que alors moi je suis vachement en colère aussi et je vous préviens, je vais être mal poli, alors ne passez pas trop mon message à l'antenne, mais Dassault là, Serge Dassault et Raffarin qui ont l'air de dire que les Français sont des feignants. Ma mère va avoir 75 ans dans quelques jours, enfin dans quelques jours, hein, 75 ans. Travaille depuis l'âge de 14-15 ans. N'a rien comme retraite parce qu'elle a fait des boulots de merde là donc ma mère fait des ménages parce que moi elle a la chance d'avoir encore de pouvoir marcher, donc elle fait des ménages et du repassage tous les jours, 75 ans dans quelques jours, d'accord. Mon père, 70 ans, artisan à son compte depuis 25 ans, a vendu la maison de ses parents décédés parce que il y avait des trucs qu'il pouvait pas payer, style URSSAF ou des impôts, je sais pas quoi, voilà, super. Moi, 41 ans bientôt, au chômage depuis 1991, je travaille en contrat à durée déterminée depuis 5 ans, à la poste, ok. Alors Raffarin, les Français sont des feignants, c'est ce que tu avais dit, va te faire foutre, et Dassault, pareil, allez tous vous faire foutre, et bravo les gens qui téléphonent aux répondeurs, vraiment, je vous souhaite à tous une bonne année, quoi, malgré ces merdes, là, sale con qui nous entubent le plus qu'ils peuvent, là. Vraiment, mais... il peut grogner, le répondeur, hein. Putain, mais il peut grogner. Allez, je vous embrasse tous. Ciao.
Pourquoi parlez-vous toujours du nombre de grévistes et ne parlez-vous pas du nombre de personnes infiniment plus important, des personnes qui travaillent? Il y en a beaucoup. Et qui aiment leur travail, qui plus est, et qui sont pas à défiler dans la rue en disant « je fais quelque chose parce que ça me rapporte et que j'aime pas ça ». C'est tellement merveilleux d'aimer son travail. Voilà, bon courage, au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour l'équipe de là-bas, si j'y suis, France Inter et tous les auditeurs. C'est Sylvain de Montpellier, je viens comme d'habitude d'entendre les quelques messages sur répondeur. Je suis fonctionnaire, je suis un de ces rigolos payés à rien foutre. Bon. Et puis j'ai une idée comme ça, idiote bien sûr, mais une idée comme ça. Est-ce qu'il serait pas possible d'imaginer un système où les gens qui sont contre et qui vomissent la fonction publique, eh ben, ils payent pas d'impôts du tout, et en échange, ils n'accèdent à aucun service public. Ou alors, ils payent au prix réel, et pas au prix social. Exemple, ils vont plus à l'éducation nationale, ils payent des précepteurs. D'accord? Ils vont plus aux hôpitaux, ils payent des cliniques privées, etc., etc. On les exonère d'impôts, on s'en fout. Mais ils payent à plein pot. Voilà, c'était juste une idée. À bientôt, ciao.
Ah non, non, Daniel, non, je suis pas d'accord. C'est pas difficile de trouver des gens qui sont opposés à la grogne des fonctionnaires. Et ce qui me met en colère, c'est les deux derniers messages. Il est 17h10, donc les deux derniers messages qui viennent de passer. L'agent hospitalier, je sais pas trop ce qu'il est, agent hospitalier, je sais pas ce que ça veut dire, qui sauve les gens, évidemment, et s'il sauve les gens, il est obligé de se mettre à genoux et de le payer comme il faut, bien sûr, puisqu'il sauve les gens. Quant à l'instit, qui gagne par mois 1500 euros, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il travaille 4 jours par semaine, qu'il a des vacances à Noël, à Pâques, février, enfin, grandes vacances, etc. Ça, ce sont pas des privilèges, bien sûr, c'est tout à fait normal. Moi, je suis artisan, je travaille, j'ai un jour et demi par semaine, je me demande si je vais pouvoir prendre des vacances, je me demande comment je vais pouvoir payer mon URSSAF, etc. Hein? Alors, il faudrait peut-être comparer des choses comparables. Il faudrait peut-être que les Français, d'une façon générale, s'intéressent à ce qui se passe à côté de chez eux, mais juste à côté de chez eux, juste à côté. Voilà. Alors je sais pas qui peut faire ça, peut-être toi, une émission qui parlerait des différents corps de métier et savoir un peu ce qui se passe chez le voisin. Voilà, je suis un peu en colère, mais tu peux comprendre ce genre de choses. Allez, au revoir.
Monsieur, jusqu'à quand vous allez à continuer à faire les propagandes, ces régimes fascistes, castristes, communistes? C'est que vous serez complice des histoires qu'il y a au Venezuela? Pourquoi vous vous parlez comme ça des moyens de communication? Si ce n'était pas pour les moyens de communication, jusqu'à maintenant, on serait vraiment dans un régime presque dictateur. Et pourquoi vous n'écoutez pas les autres programmes? Moi, tous les Vénézuéliens aiment beaucoup les moyens de communication. ces filles que vous venez de faire une entrevue, les filles de TV, Katia, ça c'est une fasciste, mais oui, n'est pas vénézuélienne. Demandez à elle combien il paye le gouvernement pour les fascistes. Vous continuez comme ça. Merci beaucoup à vous. Vraiment, vous êtes la merde.
Ah bah dis donc. voilà comment on y remercier. On se donne du mal, on va loin, on essaye de oui, de vous apprendre quelque chose, de vous faire découvrir quelque chose, et voilà comment on est traité. Merci à tous de vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. La dame vénézuélienne montre comment ça se passe là-bas, c'est quand même assez vif. On y va franchement, on y va carrément, même si on voit quand même que sur le répondeur, c'est pas triste non plus. Aujourd'hui, quel rapport peut-il exister entre la grogne, la grève, Louise Michel et le Venezuela? Oui, j'ai dit Louise Michel. Louise Michel, Venezuela, grogne et grève. Aujourd'hui, c'est le 100e anniversaire des funérailles parisiennes de Louise Michel. 21 janvier 1905, Paris, le peuple de Paris suivait l'enterrement de Louise Michel de la gare de Lyon au cimetière de Levallois-Perret. Et c'est assez peu fêté, c'est assez peu célébré, à part dans les cercles de fidèles. Donc on va parler d'elle. Mais quel lien entre Louise Michel de Venezuela, la grogne, la grève et le répondeur? Eh bien, une écharpe rouge, l'écharpe de Louise, l'écharpe qu'elle emmena avec elle en Nouvelle-Calédonie et qui, selon un historien mexicain, s'est retrouvé, je vais vous raconter comment, au Mexique, et pas n'importe où au Mexique, chez les Chamoulas. C'est une ethnie du sud du Mexique, dans le Chiapas. Et oui, les Kanaks auraient emmené cette écharpe rouge là-bas, du Chiapas au Venezuela dont nous parlons. Allez, disons qu'il n'y a qu'un pas, il n'y a pas de pas linguistique, mais il n'y a qu'un pas non plus de contiguïté, d'idées, disons, voilà. Et on peut retrouver cette écharpe rouge de la Louise. Aujourd'hui, si Louise Michel était parmi nous, elle serait sans doute en train de diriger une télévision quelque part dans une campagne du Venezuela. C'est bien possible. C'est elle dont on va parler, et de cette écharpe rouge qui n'en finit pas de faire le tour de la Terre selon un parcours international. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la Basse-Suisse.
Depuis 20 ans, Habitat Humanisme se bat contre le mal logement et pour la mixité sociale dans l'habitat. Habitat Humanisme organise Beau Mélange, samedi 22 janvier à 20h à la Altony Garnier à Lyon, en proposant à Bratch, Benawa Diffusion, Dobbez, une plateforme de musique électronique, Marc Jolivet, Valérie Lagrange, Orchestre Symphonique Lyonnais et Cafil, une compagnie de danse hip-hop, de mélanger leurs scènes et leur territoire. Ça coûte 15 ou 20 euros et le mélange est toujours beau. Alors voilà, rejoignez-nous.
C'est Manuel pour le comité Attaque Paris 13 qui vous invite à une projection autour du film Hôpital au bord de la crise de nerfs, suivi d'un débat avec la réalisatrice Stéphane Mercurio et Isabelle Laurent, qui est chirurgien au Kremlin-Bicêtre. Ça se passe le mardi 25 janvier à 19h30 à l'ADAC, 11 place nationale, dans le 13e. Venez nombreux, merci.
Des mecs que je connais même pas qui parlent à ma place. Des pauvres cons, là. Pauvres cons, là. Pauvres connards, là.
Il y a pratiquement autant d'anarchisme que d'anarchistes. Il n'existe pas un seul credo anarchiste. Autrement dit, chaque individu qui se réclame de ses idées doit, jour après jour, construire son anarchisme, le nourrir. Il y y a un siècle exactement, le 21 janvier 1905, le disait, le peuple de Paris, vraiment le peuple de Paris, suivait cet enterrement qui allait de la gare de Lyon au cimetière de Levallois-Perret. C'est là qu'elle fut d'abord enterrée, près de sa mère, près des siens, près d'autres qu'elle aimait, Louise Michel, grande figure. Elle est l'une de ces figures que nous aimons voir comme étant le meilleur de nous-mêmes et le meilleur de notre histoire. Mais là, on commence à Marseille. On commence avec René Bianco, qui est prof d'histoire, qui est spécialiste des mouvements anarchistes et de la presse anarchiste. Et pourquoi on est à Marseille ? Eh bien, parce que c'est là qu'elle est morte, Louise Michel. Le 9 janvier 1905, à 10h du matin, elle meurt à Marseille. Elle a 75 ans à ce moment-là et elle continue ses meetings, elle continue ses conférences, elle continue de militer, de se battre et de semer la bonne parole, c'est-à-dire la parole rouge, bien évidemment. Et c'est là qu'elle va mourir, dans un hôtel qui s'appelle aujourd'hui l'Hôtel des Ducs et qui, à l'époque, s'appelait l'hôtel de l'Oasis. Pèlerinage.
Bonjour.
Bonjour.
On parlait en fait de Louise Michel, de la plaque qui a été mise sur l'hôtel Duc.
Voir les chambres, c'est la chambre rose, normalement. C'est la chambre rose, il dit à la chambre rose. Voilà. Voilà, c'est Louise Michel. Ça fait Huna, disait 1905. Nous sommes ici à la chambre de Louise Michel, c'est la chambre 11. Bon, elle est morte ici. Cherche à sa mère à la télévision, avec douche, ou la chambre, ou la salaire pour deux personnes. Voilà. C'est une chambre simple, normale. Et avec deux portes-fenêtres, avec des rideaux, comme ça. Pour l'autre côté, c'est pas le côté du boulevard. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup.
Au revoir. Merci encore.
Au revoir.
Oui, l'enterrement de Louise Michel, en réalité, il a été double. On oublie généralement que puisqu'elle était morte à Marseille, il a bien fallu d'abord qu'elle ait un premier enterrement. Et c'est ce qui s'est passé. L'enterrement de Marseille a été précédé par ce qui se faisait beaucoup autrefois, aujourd'hui encore un peu, c'est-à-dire la veillée funèbre. Dès qu'on a appris qu'elle était morte, des tas de gens se sont précipités à l'hôtel où elle venait de rendre le dernier soupir, qui s'appelle aujourd'hui l'hôtel Duc. À l'époque, c'était l'hôtel de l'Oasis. Sacré Oasis quand même, hein ? Bien. Et là, dans l'escalier qui montait à cette petite chambre du premier étage où elle était étendue, il y avait bien entendu des visiteurs qui n'avaient pas été invités, qui étaient des policiers et qui se faisaient un plaisir, un devoir sûrement, mais un plaisir j'imagine, à noter les noms, à réclamer l'identité de tous ceux qui venaient, en tout cas de tous ceux qui n'étaient pas des personnalités de premier plan. La Vierge Rouge, on l'appelait ainsi de son vivant, on l'appelait la Vierge Rouge. Victor Hugo l'appelait Viro Maior, plus grand qu'un homme, disait-il. Et Verlaine l'appelait presque Jeanne d'Arc. C'est dire la dimension de son vivant qu'eut Louise Michel. Aujourd'hui, elle va être, et demain, elle va être célébrée, je le disais, par des cercles de fidèles. Il y a plusieurs cercles qui se réclament et qui se réfèrent toujours à Louise Michel, les anarchistes, les socialistes, les communistes, les féministes. Il y a une célébration évidemment riche de cette femme aujourd'hui, même si ce sera très réduit. Et justement, c'est à cause de ça que j'ai envie d'évoquer rapidement à grands traits cette figure extraordinaire. Elle était institutrice, elle était née en 1830, elle était fille d'un châtelain et d'une servante, institutrice républicaine, elle avait refusé de prêter serment à l'Empire, anarchiste, communarde, féministe, anticolonialiste. Je vais essayer d'évoquer sa présence en Nouvelle-Calédonie, militante du mouvement ouvrier international, fut-elle à l'international, inscrite à l'international, on le sait pas trop, mais puis aussi écrivain, poétesse, battante et combattante, et en un seul mot, on peut réduire toute la personne de Louise Michel au mot révolutionnaire. Alors, elle est donc institutrice dans la Haute-Marne, et puis elle s'installe à Paris, elle enseigne. Elle écrit, elle a une pédagogie bien à elle, Louise Michel. Ce sera son grand truc dans la vie, ce sera l'enseignement, mais avec des méthodes qu'elle met au point. Et puis, elle s'initie aux idées du temps. Et en 1870, le 12 janvier 1870, c'est une date très importante, elle assiste à l'enterrement de Victor Noir. Victor Noir, c'est ce journaliste assassiné sur ordre de Napoléon III. 200 000 personnes assistent à l'enterrement de Victor Noir, dont la tombe bien connue est au Père Lachaise. Vous savez, c'est ce magnifique gisant de bronze sur lequel, toujours aujourd'hui, à cause d'une bosse bien placée au niveau du sexe, du gisant, eh bien depuis très longtemps, de jour comme de nuit, des dames viennent se frotter sur Victor Noir. C'est une chose bien connue, c'est une sculpture absolument magnifique. Vous vous souvenez peut-être que récemment il avait été question d'empêcher l'accès à cette sculpture, et finalement on y a renoncé et on peut continuer de faire ça sur la tombe de, et c'est une façon d'honorer ce remarquable journaliste qui était Victor Noir. Et Louise assiste aux funérailles du journaliste, et elle a caché un poignard sous ses vêtements. Louise Michel, c'est on ne sait jamais si on est dans le mythe, si on est dans la réalité. Et il faut que ça n'ait aucune importance. C'est un personnage qui a tellement été aimé, adulé, étudié, revendiqué, que chacun finalement peut aujourd'hui prétendre avoir sa Louise Michel. Évidemment, sa figure, est associée à la Commune. Elle est là le 18 mars 71, une carabine sous son manteau, dit-on, avec les insurgés de Montmartre qui s'emparent des fameux canons de Montmartre. Elle est partout, elle est sur les barricades, elle est dans les fusillades, elle est l'insurrection même, et jusqu'au bout, jusqu'à la défaite, elle est présente, elle est ambulancière, elle fuit, mais finalement elle se rend parce que sa mère a été arrêtée, et elle vient se constituer prisonnière à la place de sa mère. Et vous connaissez, vous savez comment la Commune finit. Adolphe Thiers fait tirer sur la foule sur le peuple parisien. C'est un bain de sang. 20 000 morts, 10 000 condamnations par les tribunaux, et à ses juges, Louise s'écrie: si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Il y a un homme qui entend ces mots, c'est Victor Hugo, et il écrira à Louise Michel un poème absolument magnifique. Elle est condamnée à 10 ans de déportation. Il existe une photo qui la représente avec comme indication: Louise Michel, chef d'insurrection, elle voulait tuer Monsieur Thiers. Et c'est bien possible qu'elle ait eu cette idée. Donc la voilà condamnée à 10 ans de déportation. Fin août 73, elle part pour la Nouvelle-Calédonie, avec d'autres communards, ses camarades comme elle, condamnés, elle a perdu son amour, parce que tout le monde, évidemment, voulait savoir cette femme et ses amours. On lui en connaît peu, on n'a jamais su exactement, mais on sait en tous les cas qu'elle fut fort amoureuse de Théophile Ferré, qu'on appelait Théo Ferré, qui est une grande figure de la commune, qui a été lui aussi fusillé par les Versaillais, et c'est la mort dans l'âme que Louise s'embarque pour la Nouvelle-Calédonie. Et qu'est-ce qui se passe là en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, à la différence de ses camarades communards, elle va sympathiser avec les indigènes. Et les indigènes, c'est les Kanaks. Et là, elle va, toujours institutrice qu'elle est, leur apprendre à lire, leur apprendre à écrire, mais elle apprendra d'eux aussi. Elle apprend leur langue, elle apprend leur culture, elle écrira, elle écrit beaucoup, beaucoup. Elle écrira des contes kanaks, et elle monte avec eux des pièces de théâtre, et jusqu'à l'été 78. L'été 78, il y a une révolte. Les Kanaks se révoltent contre les colons, la colonisation française, et elle soutient évidemment ces Kanaks. Elle est sans doute pour quelque chose dans cette révolte. En tous les cas, elle les soutient. Et c'est là qu'elle leur donne son écharpe rouge de la commune. Louise avait emporté avec elle, dans ses tribulations, dans ce bateau qui est parti de Rochefort, arrive à la Nouvelle-Calédonie, 4 mois de traversée, elle avait gardé avec elle l'écharpe rouge de la commune, et elle la donne aux Kanaks qui se battent avec des flèches, avec des sagaies contre l'armée française. Ça finira très mal. 2000 morts parmi les Kanaks. C'est une répression violente, sanglante. C'est des époques terribles. Et tristesse pour tous. Tristesse. Certains communards n'hésitent pas à soutenir la répression française contre ceux qu'ils considèrent comme des sauvages, comme des anthropophages. En 1879, Louise est amnistiée, elle ne veut pas rentrer, elle préfère attendre de rentrer avec tous ses camarades. Et là, elle est nommée institutrice à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Le maire de Nouméa, un certain monsieur Simon, avait de la sympathie pour Louise. 1880, donc, le retour, l'amnistie, des gens comme Clémenceau, comme Victor Hugo se battent pour l'amnistie des communards, et elle rentre à Paris en 1880, donc une foule énorme qui l'attend à la gare Saint-Lazare, et elle descend du train, elle arrive, et qu'est-ce qu'elle a rapporté ? Des chats. Elle a rapporté des chats de la Nouvelle-Calédonie. C'était son truc, c'était les chats, elle adorait les chats. Et là, elle va repartir de plus belle. Meeting, conférence, mémoire, roman, essai, poème, elle est de toutes les batailles contre l'autorité. Mais elle est bataille à elle toute seule, et elle va retourner plusieurs fois en prison. Le 15 jours en 1882 pour outrage à agent, 6 ans en 1883, on lui en recolle pour 6 ans en 1883 pour avoir pillé des boulangeries avec des chômeurs. Manif de chômeurs, pillage de boulangeries. La Louise est arrêtée pour 6 ans. Elle est graciée en 86. Elle écope encore de 4 mois pour incitation au meurtre, en même temps que Jules Guesde et Paul Lafargue, ce qui est une très bonne compagnie. Paul Lafargue, vous vous souvenez, c'est l'auteur immortel de ce livre immortel qui est Le droit à la paresse. Et puis elle va continuer, inlassable, increvable, inoxydable, de meeting en réunion, d'écriture en contact avec tout le monde, semant cette parole. C'est une parole dure, c'est pas seulement quelque chose de gentil. Quand on disait lutte à l'époque, c'était une vraie lutte. Quand on disait arme, c'était de vraies armes. Et c'est ce peuple qui sera écrasé par la suite. Mais ça, c'est une autre histoire. En 14-18, c'est ce même élan populaire dont Louise est une des plus belles figures qui disparaîtra à ce moment-là. 1905, donc, il y a 100 ans, mourait Louise Michel. Et Victor Hugo, donc, dans ce poème qu'il écrit au lendemain de ce fameux procès où elle dit à ses juges militaires au conseil de guerre, c'est en décembre 1871, elle leur dit « Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi ». Et évidemment, Victor Hugo peut pas rater ça. Et il lui dit, ayant vu le massacre immense, le combat, le peuple sur sa croix, Paris sur son grabat, la pitié formidable était dans tes paroles. Tu faisais ce que font les grandes âmes folles et lasses de lutter, de rêver, de souffrir. Tu disais « J'ai tué ». Car tu voulais mourir. Tu mentais contre toi, terrible et surhumaine. Judith la sombre juive, Aria la romaine, eussent battu des mains pendant que tu parlais. Tu disais, au grenier, j'ai brûlé les palais, tu glorifiais ceux qu'on écrase et qu'on foule, tu criais, j'ai tué, qu'on me tue. Et la foule écoutait cette femme altière s'accuser, tu semblais envoyer au sépulcre un baiser, ton œil fixe pesait sur les juges livides, et tu songeais pareil aux graves Euménides, la pâle mort était debout derrière toi. Toute la vaste salle était pleine d'effroi, car le peuple saignant, est la guerre civile. Dehors, on entendait la rumeur de la ville. Cette femme écoutait la vie au bruit confus. D'en haut, dans l'attitude austère du refus, elle n'avait pas l'air de comprendre autre chose qu'un pilori dressé pour une apothéose. Et trouvant l'affront noble et le supplice beau, sinistre, elle hâtait le pas vers le tombeau. Les juges murmuraient qu'elle meurt, c'est juste, elle est infâme, à moins qu'elle ne soit auguste, disait leur conscience. Et les juges pensifs, devant oui, devant non, comme entre deux récifs, hésitaient, regardant la sévère coupable. Et ceux qui, comme moi, te savent incapable de tout ce qui n'est pas héroïsme et vertu, qui savent que si Dieu te disait « D'où viens-tu ?», tu répondrais « Je viens de la nuit où l'on souffre. Dieu, je sors du devoir dont vous vous faites un gouffre. » Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux, tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs donnés à tous, ton oubli de toi-même à secourir les autres, ta parole semblable aux flammes des apôtres, ceux qui savent le toit sans feu, sans air, sans pain, le lit de sangle avec la table de sapin, ta bonté, ta fierté de femme populaire, l'âpre attendrissement qui dort sous ta colère, ton long regard de haine à tous les inhumains et les pieds des enfants réchauffés dans tes mains. Ceux-là, femme, devant ta majesté farouche, méditaient et malgré l'amer pli de ta bouche, malgré le maudisseur qui s'acharnant sur toi te jetait tous les cris indignes de la loi, malgré ta voix fatale et haute qui t'accuse, voyaient resplendir l'ange à travers la méduse.
Et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux même sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égal à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé, jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais les mauvais jours finiront. Égal à la
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah bah si j'y suis avec Antoine, avec Guy, avec Louise ou à Venezuela.
República Bolivariana de Venezuela.
La
Werlin Durán.
Mon nom est Werlin Durán.
Representante del colectivo Fundación Comunitaria Camuná de Rojo TV.
Et je représente le collectif Fondation de Camuná de Rojo Télévision.
Bueno, yo soy Wendy Durán.
Je suis Wendy Durán.
La comunidad de Camuná de Rojo.
La comunidad de Camuná de Rojo, de la municipalidad de Chiche.
Y pertenezco a la televisora comunitaria Camuná de Rojo TV.
Je fais partie de la télévision communautaire Camuná de Rojo TV Télévision.
Que se perfila como la primera televisora campesina.
Qui est en fait la première télévision paysanne du Venezuela.
Wendling et Wendy, on dirait des deux sœurs.
Wendling. C'est Germain ?
Ah, elles sont sœurs.
Un ami africain qui dirait, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te promènes avec mon esprit, là. On est avec les, avec Louise Michel, on est avec les Kanaks, on est au Venezuela, et qu'est-ce que, où on est là? On est à Comunare Rojo. Comunare Rojo, c'est-à-dire commune rouge. Commune rouge, c'est l'écharpe. Il n'y a rien à faire, c'est l'écharpe de la commune de Paris qui est ici, au Venezuela. Commune, la commune rouge, on ne l'a pas inventée, on ne l'a pas fait exprès. Et il faut saluer cet historien mexicain, García de León, qui a fait des recherches selon lesquelles, après l'épisode que j'ai raconté sur cette révolte kanak de 1878, il y aurait eu des kanaks qui auraient été déportés vers le Mexique au titre de peuplement et qui se seraient trouvés mêlés à au peuple des chamoulas, des paysans du Chiapas, et peut-être qu'ils avaient apporté, c'est même, il n'y a pas de peut-être, c'est sûr, ils avaient apporté peut-être pas toute l'écharpe, mais des bouts de l'écharpe de Louise, des fibres de l'écharpe de Louise, et cette fibre, ces fibres-là, elles sont dans ces filles qui sont devant nous, devant Wendy et Warlene, parce que évidemment, si Louise Michel était de nos jours ici, elle serait là, elle serait au Venezuela, en train de créer une télévision rurale, bien évidemment, c'est évident. En tous les cas, ces deux filles sont là avec ce village, dans ce petit village du Yaracuy, d'un état du Venezuela, où dans le cadre du processus bolivarien, il y a cette réforme des médias. On en a parlé longuement hier, et là, on va sur le terrain, on va voir comment ça se... Parce que hier, c'était quand même très bavard. Hein. Là, aujourd'hui, on va sur le terrain, on va dans cette petite commune de Comunare Rojo où ces deux jeunes femmes et évidemment tout le village sont en train de créer la première télévision rurale. Il y avait, vous vous souvenez, on est allé voir la télévision Brouette sur le plateau des Mille Vaches. Et ben c'est un peu les mêmes idées. C'est l'idée de donner une image à ceux qui en étaient jusque-là dépourvus, c'est-à-dire les Vénézuéliens eux-mêmes.
una televisora comunitaria.
C'est une télé communautaire.
Que nace a raíz de la experiencia de las luchas campesinas.
Qui est né dans le sillage des luttes paysannes.
Y en este proceso de cambio, el proceso de revolución.
Et dans ce processus révolutionnaire de changement.
Estamos en este proceso de lucha haciendo este sueño realidad.
On est dans ce processus de lutte qui va faire du rêve une réalité.
Este pueblo se organizó fue eso a través de la lucha, la lucha por la tierra, por las reivindicaciones sociales.
Oui, ce peuple s'est construit en fait sur la lutte pour le droit à la terre et sur les revendications sociales.
El hecho de que estemos construyendo la televisora campesina con la misma esencia de este pueblo, con la misma...
Le fait de construire une télévision paysanne à partir des ressources propres de ce peuple, de ce village.
Y eso creo que es punto fundamental para el desarrollo y encontrarnos a nosotros mismos como pueblo.
Ça, c'est un point fondamental pour nous, pour le développement de la télé, c'est de nous retrouver nous-mêmes comme habitants de ce village.
Comme nous disait Corneille Castoriadis, c'est une bouteille à la mer qui arrive à bon port. Quel meilleur hommage à rendre à Louise Michel aujourd'hui, 100 ans après sa mort, que les paroles de ces deux jeunes et superbes femmes de ce village de Comunare Roro, commune rouge, au Venezuela, qui prolonge son histoire. Enfin, elle pourrait être là, elle pourrait souffler, Louise Michel pourrait souffler ce que disent les mots de ces deux jeunes femmes et de cette coopérative qui est en train de créer une télévision rurale au Venezuela. Notre idée, je vous le rappelle, c'était de laisser tomber Chavez, de plus s'occuper de Chavez, savoir s'il est un dictateur ou pas, d'aller voir les Vénézuéliens, les habitants, les gens, le peuple qui a voté pour lui. Et voilà, ben voilà, ici, à Comunare Roro, on a voté à 90% pour Chavez et on disait aux gens, oui, alors dis donc, ça va être difficile de trouver des chavistes. Non, 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 il y en a encore, il faut les convaincre. Alors, je ne sais pas si la télévision, cette télévision suffira pour les convaincre. En tous les cas, l'idée, évidemment, c'est de se reconnaître au miroir de la TV et de se représenter, de voir... Au fond, c'est qui sommes-nous à Prague en 89, le nouvel gouvernement, Občanské Forum, avait dit qui sommes-nous. Il avait fait une grande exposition dans les rues de Prague. Qui sommes-nous où on en est de nous-mêmes, de notre histoire. Ben, c'est un peu la même chose au Venezuela. Et une façon de savoir qui l'on est, eh bien, c'est de se regarder dans un miroir. Aujourd'hui, le miroir s'appelle télévision.
Elvis.
Alors là, on arrive où ça?
Estamos en el Comunare Rojo. En la avenida principal.
Donc on est dans l'avenue principale de Comunare Rojo.
Se está haciendo la construcción, lo que le llamamos la sede.
Donc là, on est en train de construire le bureau de la télévision.
De la télévision, exact.
D'accord, et là, ça c'est le chantier où on arrive. Alors ça, ça emploie pas mal de monde, hein. Il y a une quinzaine d'ouvriers qui sont au travail, là. Hola.
Alors, bienvenue au siège de Comunare Rojo, de la TV.
La télé. Alors pour l'instant, la télé, c'est pas où, hein. On n'est pas chez Bouygues, on n'est pas chez TF1 là, hein. C'est juste, on est en train de creuser les fondations.
Ya lo que falta de aquí en adelante es poquito.
Donc il n'y aura plus grand chose à faire.
Para acentuar las bases y luego se levantan paredes y ya estamos listos.
Donc juste pour faire la chape au sol et après on monte les murs et voilà.
Et alors vous les filles, vous êtes les chefs. Qui va être le chef entre les deux filles?
Bueno, Wendy es la presidenta.
Ah, Wendy c'est la présidente.
Moi je suis d'accord. Et tu?
Yo soy formo parte del equipo, estoy en la parte tesorera, pero soy en producción, construcción, hacemos de todo.
Je suis partie de l'équipe, je suis trésorière, mais je m'occupe de la construction et du suivi.
De la construction.
Et la présidente m'expliquait il y a deux secondes qu'il y a encore quelques jours, elle était en train de manier la brouette et la pelle pour pouvoir construire le siège de sa télé publique communautaire.
Pero de todas maneras aquí no hay jefe, aquí somos un grupo que estamos trabajando.
Oui, ici, il n'y a pas de chef, on est un groupe qui travaille ensemble. C'est ça qui est important pour nous tous.
Voilà, les plans de la première télévision rurale du Venezuela.
Avec la façade, l'arrière, t'as vu, c'est un arc de cercle. Et on voit un peu les trous qu'ils ont fait dans le sol, là, même le sol, là. Les débuts de fondation, ça correspond à peu près. Voilà, là, dans le demi-cercle, ça va être le studio.
Et où est la machine à café?
Ah, c'est déjà prévu, voilà, c'est la petite
voix.
C'est quoi là? Il y a une espèce de panneau là, sur le chantier.
Ils ont mis une banderole.
Une nouvelle génération naît, le présent est fait de lutte et le futur nous appartient. C'est une citation écrite Elche.
Elche.
Il y a ici, il y a vraiment El Chavez et Elche.
C'est presque pareil. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est ces deux filles superbes au milieu de tous ces mecs. Et c'est les patronnes.
Oui.
C'est bel et bien les patronnes. Elles ont 25 et 30 ans, hein, tout au plus.
Tout au plus.
Tout au plus.
Ils ont peur de se laisser emmerder.
Au milieu de tous ces machos, là, hein, ça doit être quelque chose, quand même, d'être à la tête de tout ça.
Alors, elle m'a expliqué, Wendy, qu'elles ont emprunté de l'argent, donc, à une coopérative qui leur a prêté de l'argent pour acheter les matériaux de construction, et qu'elles ont un plan de financement en 4 ans. Donc elles vont faire ce qu'elles appellent de la publicité, mais qui sera plutôt du reportage publicitaire sur les petits commerçants du secteur. Donc là, ça fera une rentrée d'argent avec laquelle ils vont rembourser le prêt des matériaux, quoi.
Alors qui sont les ouvriers qui travaillent là? C'est des volontaires? C'est d'une entreprise? Et c'est...
Bueno, los compañeros que están aquí pertenecen a la misión Vuelvan Caras.
Donc c'est des gens qui participent à la mission Vuelvan Caras.
Bueno, normalmente la misión Vuelvan Caras tiene como fin recoger a todas estas personas que no tenían la posibilidad de tener un trabajo.
Donc Vuelvan Caras, c'est une mission qui a pour but de donner un travail à tous les gens qui n'ont pas de métier et pas de travail.
Para luego formar cooperativas.
Pour qu'ils puissent eux-mêmes créer des coopératives.
Qué mejor manera de relación de que estén aquí en una labor comunitaria.
Donc la meilleure chose, c'est qu'ils participent aussi à un autre travail local, communautaire.
Que es la construcción de la televisora de nuestra comunidad.
Voilà, qui est la construction de la télé de notre communauté.
Voilà, une expérience de construction de la première... Construction, oui, hein, de la première télévision rurale, donc, au Venezuela. On voit que la construction, l'élaboration, les équipes qui construisent, tout ça, c'est des idées. Les idées sont dans la construction et même dans la préparation, dans tous les moments de la télévision. C'est pas seulement dans dans l'image qu'on produira. Hein. C'est pas des produits, ou si c'est des produits, à chaque moment de l'élaboration, il y a des idées de changement, des idées d'alternatives.
Assemblée nationale des étudiants bolivariens révolutionnaires. Voilà ce qui est écrit sur le t-shirt de notre ami.
C'est bien ça.
Alors, comment vous appelez?
Sergio Castillo.
Sergio Castillo.
Alors, vous êtes le formateur.
Si.
Alors, d'où ils viennent, les gars, là, qui sont sur le chantier?
De la communauté, alrededor.
Ah, eux, ils sont de la municipalité ou alors des environs immédiats?
La mission Vuelvan Caras.
Ils font partie de la mission Vuelvan Caras. Ça veut dire que les visages reviennent, on retrouve des visages. Hein. C'est un retour à la lisibilité, à la...
Relever la tête aussi.
Relever la tête, voilà. Réapparaître aux yeux de tous.
Dis-moi, qu'est-ce qu'ils faisaient, les gars, avant de venir sur ce chantier, avant de faire ce stage sur ce chantier?
Algunos eran campesinos, agricultores.
Certains paysans, des agriculteurs.
Travaillaient la terre.
Travaillaient ouvriers agricoles.
Eran algunos desempleados, la mayoría.
Et puis, beaucoup de chômeurs, la plupart, quoi.
El beneficio de la capacitación y le dan una pequeña colaboración mientras están estudiando.
Et qui, à la fois, bénéficient d'une formation et, effectivement, d'un petit pécule pendant qu'ils étudient, pendant qu'ils sont en formation.
Ah, d'accord.
Ils sont rémunérés.
Combien ils touchent d'indemnité pendant ce travail?
176 000
bolivars par mois.
$200 mensuels.
No solamente eso, sino que reciben la parte de formación, que ellos después van a hacer un trabajo por su propio medio.
Sans compter le revenu, n'incluant pas le fait qu'ils reçoivent une formation qu'ils vont pouvoir valoriser par la suite.
Luego, se forman en cooperativa, les bajan sus créditos.
Après, ils monteront des coopératives, ils vont obtenir des microcrédits.
Exactement. Ils font une empresa ou pour aider à abaratar le coût de la production, tant agricole, pecuaria, en construction, comme nous.
Et après, ils vont des coopératives de travailleurs qui iront s'employer à la fois sur les chantiers, mais aussi chez les paysans ou dans les coopératives agricoles.
Les anti-chavistes, nous, on a rencontré les anti-chavistes.
Ils nous ont dit
que Chavez, il donnait des sous aux gens, il les achetait.
Comprando la gente así, pagándoles.
Aquí había personas que inclusive eran antichavistas.
Había même des personnes qui étaient antichavistes sur ce chantier.
Y se incorporaron porque era una oportunidad de ellos trabajar.
Et s'ils sont venus là, c'est parce que c'était vraiment une possibilité pour eux de trouver un travail.
Et franchement, ici, c'est difficile de trouver des antichavistes.
Non, todavía hay.
Non, il y en a encore, et puis ils ont du pouvoir. Ils ont encore des moyens.
Ah.
estoy.
La paz y decir.
La paz y decir.
La paz y estoy.
La paz.
La paz.
Y la quiz.
La quiz.
Camino la vi que falleció. Plantacionada en trocámara.
Plantacionada en trocámara. Sombra son la gente y nada más.
Camino la vi que falleció. Plantacionada en trocámara.
Selva verde, selva traga, selva nunca dice nada.
Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara.
Recoge el café y coge pa' allá, si no te pega el mayoral.
Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara.
Camilo Manrique falleció y lo enterraron sin llorar.
Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara.
Y es un triste monumento, una cruz de palo y nada más.
Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara.
Oye, lo que digo es la verdad, sombras son la gente y nada más.
Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara.
Retour à Caracas là pour une dernière rencontre. Plaza Bolivar, c'est la place centrale de Caracas. C'est un endroit très sympa. Rencontre avec un groupe qui s'appelle Sonison. Il y a pas seulement les peuples de Barrio, les gens des Barrio qui sont concernés par ce mouvement actuellement au Venezuela. Il y a toute une ce qu'on pourrait appeler une movida. Hein, c'est-à-dire des jeunes qui un peu partout, des étudiants, qui se prennent la tête, qui se prennent le chou, qui essayent de... Il y a un printemps au Venezuela, voilà, tout simplement. Il y a une effervescence, il y a un printemps, il y a une énergie, ça durera ce que ça durera, mais c'est maintenant. Et rencontre donc dans ce square de la place Bolivar avec deux garçons du groupe Sonison.
Saludo, allô, probando.
Force Inter.
Representando Yo-Yo, grupo se llama Sonison. De Caracas, Venezuela, el Valle de Caracas. Bueno, esta canción la hicimos cuando decidimos dejar de hacer lo que hacíamos.
Cette chanson donc on l'a écrite quand on a arrêté de faire ce qu'on faisait avant.
Y transformarnos en un grupo que apoya el proceso de transformación revolucionaria.
Y on a décidé de devenir un groupe qui allait soutenir le processus révolutionnaire.
Y bueno, le pedimos a la luna que alumbre la cabeza, la conciencia de la gente que está en contra de lo que está sucediendo acá.
Et on a demandé à ce que la lune éclaire la conscience des gens qui sont contre le processus révolutionnaire.
En contra del bienestar de los que siempre hemos tenido poquito y queremos igualar la situación.
Et contre le bien-être de ceux qui ont jamais eu grand-chose et qui veulent améliorer la situation.
Y a los que están dentro de este proceso político creyendo ser revolucionarios y con sus acciones ser contrarrevolucionarios.
Et aussi on s'adresse à ceux qui pensent être dans le processus révolutionnaire mais qui avec leurs actions en fait sont contre.
Es decir,
aquí se le dice manzana.
On les appelle ici les pommes.
Rojo por fuera, blanco por dentro.
Rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur.
El blanco es el color histórico del partido más emblemático de la derecha de este país.
Le blanc c'est la couleur emblématique du parti le plus à droite de ce pays.
Los Adecos.
Los Adecos.
Acción Democrática.
Acción Democrática.
Bueno, dice así, se llama Luna.
Luna, Lunita. Alumbra los ignorantes que saborearon el poder antes y a los de ahora que, comprometidos quienes,
avanzamos,
penetramos,
nos constituimos,
integramos, invocamos. Estudiando la participativa y protagónica en la que estamos basados.
Apoyo
crítico, no paranoico ni fanático.
Protesta la cápsula de la realidad
única.
Porque el poder de la calle
democracia no se la cala ni se encalla ni la pollera colora menos se encalla, nadie detiene. Sin paramilitares ni rehenes. Pensando local, actuando global, pensando global, actuando local. Y muchos de afuera que escuchan y leen y admiran apoyan este proceso.
Eduardo Galeano, Uruguay.
Muchos de afuera que escuchan y leen y admiran apoyan este proceso.
Que cada día
parece que va a caer. Que cada día parece que va a caer. Que cada día parece que va a caer. Pero son pruebas del destino para fortalecer los sueños y hacer los hechos. algo positivo, medios alternativos. TV privada, copiando, importando
modelos foráneos extranjeros, reproduciendo la exclusión a Guayacete, discriminando a los que antes excluidos sin educación.
Hoy, a consecuencia, discriminan a aquellos ellos.
Pero el teclado democratiza el relato, a los antes vencedores
se le está aguando el guarapo.
Porque organizados somos más a cada rato. Nosotros nos conectamos
en las calles a diario, Río Rebelde, Venezuela,
buscando su cauce. 13 de abril 2002,
nueva gesta histórica en el calendario.
Merci à tous, merci à Georges Bartoli, Guy Vantil, reporter et traduction, Antoine Chao, reporter à Marseille, Pascal Hop, Pascariello, son premier reportage dans la base si j'y suis. Merci à Wendy Werling Durand de Comunare Roro, à la librairie Publico, à René Bianco, à Abdella de l'Hôtel Duc, à Marseille, à Michel Bernard. Samedi 22, demain, départ à 15h du métro Louise Michel à Paris, d'un cortège pour le centenaire de la mort de Louise Michel, pour se rendre au cimetière de Levallois, où elle fut enterrée le 22 janvier 1905, évidemment, le 21 janvier 1905. Hein. Et puis, il y a plein de célébrations, renseignez-vous, il y a des informations disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, technique aujourd'hui, Michel Thomas et Antoine Viossa. L'équipe de là-bas, si j'y suis, c'est Yann Chouquet, Raphaël Mouter, de Pascal Pascariello, Antoine Chao. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et c'est Christophe Humbert qui s'en occupe. On se retrouve lundi à 17h pour là-bas, si j'y suis. Dans une minute de réclame, vous retrouvez Frédéric Bonneau pour Charivari. Bonne fin de semaine à tous, à lundi 17h. Salut!